C'est une machine à chanter. Regarde, tu chantes, la 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 la, l'air, et ça te fait l'accompagnement et tout.
Syllabe.
La radio sauvage.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scylla pour une nouvelle émission Chat and Mobility qui traite de la mobilité internationale. Je suis Sophie, membre de l'association ESN, ESN qui signifie Erasmus Student Network. L'association a pour objectif d'accueillir les étudiants internationaux venus à Rennes dans le cadre de leurs études ou bien d'un stage. Aujourd'hui, je suis accompagnée de trois invités, Shannon, qui est aussi membre de l'association ESN, partie à Greensboro en Caroline du Nord aux États-Unis pendant 10 mois, d'août 2017 à mai 2018, dans le cadre d'un programme de business en échange des conventions bilatérales entre l'Université de Rennes 2 et l'Université en Caroline du Nord. Bonjour Shannon.
Bonjour.
Il y a aussi Mathilde qui est membre de l'association ESN, qui elle est partie à Salamanque en Espagne en septembre 2017 pour une durée de 10 mois, dans le cadre de ses études avec le programme Erasmus. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et il y a Claire qui est partie à Nicosie à Chypre pendant un semestre de septembre à décembre 2017, aussi pour tes études avec le programme Erasmus. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, dans cette première émission, on va discuter et échanger autour de la mobilité internationale en témoignant de notre expérience. Nous discuterons tout d'abord de l'avant-mobilité, avec notamment le choix de la destination qui est assez important. Puis nous parlerons de pendant la mobilité en abordant des petites difficultés et puis les bons moments. Et enfin, nous évoquerons le retour personnel de chacune des invitées après cette mobilité. Alors aujourd'hui, on constate que de plus en plus de jeunes partent à la découverte du monde, que ce soit dans le cadre d'études, d'un stage ou simplement en sac à dos. Et il y a autant de manières de s'évader et de partir à la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture. Le choix de la destination est important. Donc Claire, tu es partie à Chypre, mais pourquoi ce choix de destination ?
Alors d'abord, moi je suis à Sciences Po Rennes, donc du coup ce qui m'a beaucoup intéressée avec Chypre, c'était la situation géopolitique en fait de l'île, étant donné qu'elle est donc aujourd'hui coupée en deux, si je peux dire. Donc c'est-à-dire qu'au nord, il va y avoir une partie occupée par les Turcs depuis 1974, donc c'est assez récent. Et au sud, donc ça va être la partie grecque, qui elle est dans l'Union européenne et donc a l'euro par exemple, espace Schengen et tout ce qui va avec finalement.
Ok, très bien. Et toi Shannon, du coup, quoi ce choix de destination, les États-Unis
Moi c'est moins intelligent on va dire, c'est juste que j'avais toujours envie d'aller aux États-Unis depuis que je suis toute petite et quand j'ai eu l'opportunité d'y aller, j'ai pas réfléchi très longtemps, je me suis dit bon bah je vais décider quelles villes sont intéressantes et ça a été Greensboro pour raison financière parce que c'était l'endroit le plus abordable on va dire pour les États-Unis et puis c'est comme ça que j'ai atterri là-bas quoi.
Très bien. Et toi Mathilde, du coup ?
Du coup, moi j'ai choisi l'Espagne parce que je suis en licence d'espagnol déjà, donc c'était logique de choisir un pays hispanophone. L'Espagne, question pratique, c'était plus près. Je ne me voyais pas encore partir en Amérique latine. Et ensuite, au niveau de la ville que j'ai choisie, Salamanque, c'est surtout pour... parce que la ville est connue comme étant une ville très étudiante, très internationale, et c'est ce que je voulais en fait, rencontrer des gens qui venaient d'un peu partout. Ce côté international m'attirait beaucoup.
Très bien. Et Shannon, est-ce que pour toi, ça a été un petit peu difficile à mettre en place ce programme hors Europe, aux États-Unis ? On sait que c'est toujours un peu compliqué.
Ouais, c'était un peu compliqué parce que déjà, c'est pas en Europe. Donc, il faut se renseigner sur toutes les modalités pour pouvoir partir quand on est européen, pour pouvoir partir aussi longtemps. Et au-delà des modalités, donc par exemple, tout ce qui est visa, etc., c'est surtout que c'est un coût qui est assez astronomique et dont les gens se rendent pas forcément compte. Puisque pour pouvoir être sélectionné, en fait, déjà pour partir aux États-Unis, il faut passer un examen d'anglais qui déjà coûte environ 200 euros. Donc, c'est le premier apport. Et même avec cet examen, on n'est pas sûr d'être sélectionné pour partir. Il n'est pas remboursable. Donc ça, c'est la partie sympathique. Après, il y a tout ce qui est visa, etc. On est obligé d'aller jusqu'à Paris pour le faire. Donc, autre inconvénient. Donc tout ça, c'était assez compliqué à mettre en place. Après, heureusement, on a des aides, hein, avec que ce soit Rennes Métropole ou même la région Bretagne et tout ça, qui permettent de rentabiliser un peu tout ça, quoi.
Ok. Et toi, du coup, Claire, t'es partie en Erasmus, mais c'était avec l'université de Rennes 2 ou une autre université
C'était avec l'IEP, en fait. C'était dans le cadre de la troisième année, en fait, obligé, ça a l'air d'être un mot un peu compliqué, mais enfin, on est tous très contents de partir, on est tous obligés en fait de faire notre troisième année à l'étranger, que ce soit dans le cadre d'un Erasmus ou dans le cadre d'un stage, où il y a aussi énormément de conventions bilatérales comme Shannon a pu en profiter.
Très bien. Mais c'est pas un an normalement, ce que là tu avais fait un semestre ?
Oui, en fait, après, je suis partie en stage, du coup, en Allemagne, à Berlin. Donc, changement total de,
ouais, quand même.
de paysage.
Et toi, Mathilde, c'était avec l'Université de Rennes 2 ou l'Université
Non, pas du tout. En fait, j'ai beaucoup bougé dans mon parcours. Donc, j'étais en licence 2 à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et du coup, dans le cadre de ma L3, j'ai fait une demande pour partir. Donc, c'était avec l'Université de Toulouse.
Ok, très bien. Bah, il est maintenant temps de faire une petite pause musicale avec une musique choisie par Shannon, hein, qui nous en dira un peu plus sur ce choix juste après l'écoute du titre « Narcotique » de Liquido.
Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather play. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
Vous êtes toujours sur Scilab dans l'émission Chat & Mobilité pour parler de la mobilité internationale. Du coup, Shannon, c'est toi qui as proposé ce titre. Qu'est-ce que ça te rappelle concernant ton séjour aux États-Unis?
C'est à la fois plein de bons souvenirs et en même temps, je suis carrément saoulée de cette chanson, honnêtement. En fait, c'est mon ex pendant le séjour qui la mettait absolument à chaque soirée. Et on faisait beaucoup de soirées. On avait environ 3-4 soirées par semaine, toutes les semaines pendant un an. Et la première fois, c'était sympa. Le premier mois, ça passait encore. Après, j'en pouvais plus. Et mais du coup, à chaque fois que je l'entends, ça me fait penser à ça. Et je me dis, putain, j'en peux vraiment plus de cette chanson.
Bon, mais bon. Tu la réécoutes encore une fois.
Ça va, ça passe.
Donc juste avant la pause musicale, on a abordé le choix de la destination quand on part à l'étranger, dans le cadre d'une mobilité. Et maintenant, on va un petit peu aborder les questions de pendant la mobilité, hein, donc pendant votre séjour. Et donc quand on part s'installer à l'étranger, il y a toujours des difficultés, hein. Notamment quand on arrive, il y a de nombreux papiers à faire, faut trouver un logement, se faire comprendre avec dans une autre langue, rencontrer du monde, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? Par exemple, Mathilde, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou plusieurs qui te viennent en tête?
Alors, des anecdotes, j'en ai plusieurs, oui. Donc déjà, ce qui a été compliqué au début, ça a été l'emploi du temps. Donc il faut savoir que quand on arrive dans le cadre d'Erasmus, il faut choisir les cours qu'on va avoir. Donc c'était très compliqué à Salamanque parce que c'était réparti en 3 facs différentes. Je devais choisir des cours dans la fac d'histoire, la fac de langue, la fac de traduction, qui n'étaient pas forcément situées au même endroit. Donc je pouvais avoir beaucoup de cours qui pouvaient se chevaucher. Il fallait ensuite que j'aille d'un bout de la ville à l'autre pour aller d'une fac à l'autre. Donc c'était très compliqué d'organiser tout ça. Ça a pris un mois entier, en fait. Donc voilà, une fois que ça a été fait, bon, après j'étais tranquille de ce côté-là. J'ai eu d'autres soucis qui sont arrivés. Ça se passait pas très bien dans ma coloc. Donc j'ai pris la décision au bout d'un moment de changer d'appartement. Donc il a fallu refaire des visites, recontacter des propriétaires, signer des papiers. Ça a été un peu compliqué aussi.
Ouais, toujours compliqué quand on arrive. Et toi, Claire, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter sur ton séjour ?
Moi aussi, j'en ai plusieurs. Du coup, moi, par chance, ça s'est très bien passé avec mes colocs, avec le propriétaire aussi. Mais en fait, ils ont moi, ce qui m'a le plus choquée, je pense, à Chypre, c'est la différence qu'ils ont par rapport à nous du retard. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas du tout cette notion. On parle beaucoup dans les pays européens du quart d'heure de politesse. Et alors, eux, ce n'est pas un quart d'heure, c'est carrément une après-midi. C'est-à-dire que parfois, ils nous disaient qu'il allait passer à l'appartement pour régler un problème, pour parler avec nous, juste pour nous voir. Et ils nous disaient qu'il passerait donc dans l'après-midi. Et finalement, il arrivait à 22h30. Ah, donc, oui. Et ça, ce n'était pas du tout quelque chose de bizarre. À Chypre, ou pareil pour les cours, c'est-à-dire qu'on avait des plages de 3 heures et les élèves arrivaient une heure en retard et ça posait aucun souci au professeur, mais alors vraiment aucun problème.
Ouais, je vois. Et toi, Shannon, du coup ?
Ouais, des anecdotes, j'en ai plein. Après, une... Ce regard. Après, une qui m'a le plus marqué, en fait, c'est une histoire qui comprend mon passeport. Alors, en fait, il faut savoir aux États-Unis que déjà, si on n'a pas 21 ans, on n'entre nulle part. On n'est pas autorisé dans les bars et tout ça et tout ça. Moi, merci mon Dieu, j'avais 21 ans, donc je pouvais participer à plein de trucs. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on vend de l'alcool aussi dans les bowling, ce genre de choses, etc. Donc, ils peuvent te refuser l'entrée. Donc, ça, c'est un peu moyen pour les soirées avec tes potes. Mais quoi qu'il en soit, non seulement si on n'a pas 21 ans, c'est compliqué. Si on est étudiant international, on est obligé de se trimballer avec son passeport. Ils prennent pas de photocopie, ils prennent pas ta carte d'identité française parce qu'elle a l'air trop fausse, donc ils l'acceptent pas. Donc t'es obligé vraiment de prendre ton passeport avec toi. Ce qui fait que, bien sûr, à une soirée, j'ai perdu mon passeport. Et j'ai dû appeler en panique ma coordinatrice en disant « Coucou, j'ai perdu mon passeport, qu'est-ce que je fais ?»« Ah non, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas, je vais me renseigner. » Elle a appelé l'ambassade à Washington qui lui a dit qu'il fallait que je sorte du pays, que je retourne en France pour valider mon visa et re-rentrer aux États-Unis. Sauf que vu le prix des billets d'avion, c'était pas possible. Et donc, grosse galère pendant plus d'un mois. Un petit peu moins d'un mois quand même. Mais j'ai vraiment galéré pendant 2 semaines à essayer de convaincre tout le monde de me laisser rester. Et en fait, le chauffeur de Uber dans lequel j'avais perdu mon passeport ne m'a jamais rappelé en disant que non, il l'avait pas, nanana. Et puis un jour, je suis en vacances. Oui, parce que j'ai pris des vacances quand même. Et je reçois un message, en fait, d'une nana qui était dans le même fac que moi et qui ne me connaissait pas du tout. Hein, mais elle a trouvé mon passeport dans le Uber et elle m'envoie un mail en me disant « Coucou, j'ai trouvé ton passeport. Et est-ce que tu veux le récupérer ?» Ouais, je veux bien. Et donc, du coup, j'ai trouvé mon passeport après 2 semaines, alors que le chauffeur de Uber l'avait tout ce temps. Il n'a jamais voulu le récupérer. Et donc, voilà.
Ah ouais, bon, ça va, c'est une histoire qui s'est bien terminée. Bien passé, ouais. Mais généralement, les petites galères se finissent toujours bien. Et donc, quand on a trouvé un logement, quand on a trouvé sa fac, comment ça fonctionne, hein, qu'on a fait des rencontres, on peut enfin profiter des bonnes choses, je pense. Et du coup, est-ce que vous avez des bons moments à nous partager qui vous ont marqué, Claire, je sais pas, est-ce que tu en as un à nous partager?
Moi, je faisais énormément de choses avec l'ESN, du coup, de Nicosia, parce que mon buddy, en fait, c'était le président. Ils organisaient vraiment des choses tous les week-ends, même la semaine, des soirées. Par exemple, le dîner international, c'est quelque chose qu'ils faisaient aussi. Et en particulier, ils avaient organisé une journée, un peu plus d'une journée, on revenait en fait le lendemain d'après. Et c'était donc à Cap Gréco, c'est un site en fait protégé, naturel, c'est une énorme falaise avec des grottes sous-marines, en fait l'eau elle est transparente et on est tous allés là-bas et on sautait tous en fait de la falaise, donc c'est à peu près 10 mètres, donc en fait il y avait une grande cohésion, tout le monde s'encourageait à sauter, à aller dans l'eau, etc. Donc je pense que oui, c'est vraiment de mes meilleurs souvenirs. Puis la soirée sur la plage après, c'est vraiment génial aussi.
Et toi Mathilde, est-ce que tu as des bons moments à raconter ou un en particulier ?
Alors j'ai beaucoup de bons moments aussi, hein. Je pense qu'une mobilité ou un Erasmus c'est de toute façon beaucoup de bons souvenirs. J'ai fait beaucoup de soirées, donc ce serait difficile d'en sélectionner une en particulier. Mais il y a quand même eu un grand événement qui m'a beaucoup marquée, c'est la Noche Vieja Universitaria. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc en fait c'est tout simplement la nouvelle année. Et il faut savoir qu'à Salamanque, comme c'est une ville, comme je vous ai dit, très internationale, très étudiante, ça a été mis en place en fait par des étudiants étrangers qui devaient rentrer chez eux pendant les périodes, les vacances de Noël. Donc chacun rentrait dans son pays et du coup, ils ne pouvaient pas faire le nouvel an avec leurs connaissances sur place, les gens qu'ils avaient rencontrés sur place. Et donc ça a eu un côté un peu frustrant. Et je crois que c'est dans les années 90, un groupe d'étudiants a commencé à organiser un nouvel an, une Noche Vieja, mais en avance, au début du mois de décembre, pour justement pouvoir le faire avec les rencontres qu'il avait fait dans la ville en Espagne. Et en fait, l'événement a pris beaucoup d'ampleur et tous les ans, maintenant est organisé un nouvel an en avance. Donc c'est début décembre et maintenant ça attire vraiment des milliers de personnes. Il y a des bus qui sont organisés qui partent de toutes les régions d'Espagne, d'Andalousie, de Barcelone, et il y a même des gens qui viennent d'Angleterre. J'ai rencontré des gens qui venaient d'Angleterre juste pour cette soirée. Donc c'est vraiment énorme. Et tous les bars participent à ça dans la ville. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble une place à Mallorca en Espagne. Donc c'est une grande place carrée et donc qui était remplie de monde. Donc c'est vraiment un événement incroyable qui m'a beaucoup marquée. Et j'aimerais y participer à nouveau avec plaisir si je pouvais.
Je me doute. Et toi, Shannon, du coup, un bon moment ou des bons moments qui t'ont marqué?
Ce qui était super sympa dans ma promo aux États-Unis, dans cet échange, c'est qu'on était un groupe de 100-110 étudiants et bizarrement, on était quand même tous assez soudés. On faisait pas mal d'activités ensemble. Il faut savoir qu'aux États-Unis, étant convention bilatérale, c'est hors Europe, il n'y a pas ESN là-bas. Mais la fac où j'étais organisait des rencontres comme ça entre parrains, marraines et tout ça. Et au final, on a sympathisé avec des Américains qui un jour nous ont dit « Écoutez, c'est le lancement de la saison de football. Est-ce que vous voulez aller voir un match ?» Ok, ça marche, football américain c'est pourri, c'est pas du football français ou européen, mais on va aller voir quand même ce que ça donne. Et en fait au départ on devait être 10 personnes parce que c'est deux de nos parrains marraines qui nous avaient proposé, et on s'est retrouvés à 60 en fait à aller à ce match. Et donc du coup on était tous dans des voitures d'américains et tout ça, ou même des européens qui avaient loué des navettes, des trucs et tout. Et on s'est retrouvés, le match il était à 1h30 de Greensboro là où on était. Et on arrive dans cette ville de Chapel Hill où avait lieu le match. Et en fait, les couleurs de l'équipe, c'est bleu et blanc. Et du coup, toute la ville et tous les habitants, tout le monde, mais je dis tout le monde, était en bleu et en blanc. Et c'était un truc absolument hallucinant. On arrive dans le stade, c'était pareil. Et en fait, rien qu'à nous, on avait 3 gradins qui étaient réservés juste pour nous. Et t'avais du coup tous les étudiants de UNCG, donc la fac où j'étais, et qui étaient tous là sur 3 gradins en train de regarder le match pendant 4 heures. Interminable au soleil, mais c'était un moment assez, assez incroyable. Ouais, c'était plutôt sympa de voir ça.
Ouais, ça a l'air. Bon, on va maintenant écouter une musique hein, pour se faire une petite pause musicale. Donc cette fois, c'est toi Claire qui a choisi ce morceau. Il s'agit de Send Me On My Way de Rusted Root. Et on va écouter ça tout de suite sur Syllab.
Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run.
Oh, boy. Oh, boy.
I'm over to see, I'm over to see.
Tell you to run. Vous écoutez Chat and Mobility sur C-Lab. Et Claire, c'est toi qui as sélectionné ce morceau. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ?
Alors oui, donc comme le disait Mathilde pendant cette petite pause musicale, c'est vrai que ça n'a rien de chypriote à la base. Mais en fait, c'est plus avec mes colocs, on l'écoutait vraiment tout le temps. C'est vrai que c'est une chanson qui fait penser au voyage, aussi au fait que c'est un moment de la vie, c'est le présent. Et donc on s'est mis à l'écouter absolument tout le temps. C'était un peu la chanson de fin de soirée, la chanson de réveil, la chanson de ménage. C'était la chanson de tous les jours et il n'y avait pas de mauvaise occasion pour la mettre. Voilà.
Et c'est vrai qu'on a tous souvent une petite musique qui nous marque et celle-ci, c'est vrai qu'elle donne un petit peu envie de partir, donc ça fait du bien. Et maintenant, j'aimerais bien savoir s'il y a des petites choses de la culture de ces différents pays qui vous ont marqué. Shannon, par exemple, aux États-Unis.
Ouais, clairement, c'est la façon dont ils te disent bonjour, les Américains. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de ressentir ça ou de rencontrer un Américain ou quoi que ce soit. En fait, donc nous, en France, on se fait la bise, c'est normal. Dans d'autres pays, ils se serrent la main hein, ou juste un petit hochement de la tête. Eux, non, ils viennent de te rencontrer et ils vont te faire un gros câlin. Et donc, c'est super perturbant quand tu n'es pas habitué. Ils arrivent vers toi, ils te font un coucou et puis ils te font un câlin. Et au début, tu es là, genre, ok, qu'est-ce que tu fais? Je te connais pas. Et en fait, après, tu t'y habitues de ouf. Et quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à faire des câlins aux gens et ils appréciaient pas du tout. Donc, du coup, je suis revenue à la bise. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant au départ. Même tes profs, tu les tutoies pas parce qu'en anglais, il n'y a pas de tutoiement. Mais c'est vraiment une façon différente de parler. Ils te demandent, par exemple, comment ça a été ta journée et tout. Alors que tu viens d'arriver en écho, 9h du mat, t'es fatigué. Et ils te font oh bah alors, t'as l'air fatigué, t'as fait la fête hier. Et c'est que des relations comme ça, très proches, en fait, très intimistes. Ils te mettent vraiment à l'aise. Ils sont potes avec toi, ils sont intéressés. Dans le bus, ils t'entendent parler une autre langue. Ils font ah, mais tu viens d'où? Mais c'est trop bien et tout ça. Ici, tout le monde s'en fout. Donc, gros décalage. Ouais.
Et toi, Mathilde, du coup, il y a des choses qui t'ont marqué un petit peu dans la culture?
Oui, alors ça semble peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que les Espagnols vivent avec un temps de retard par rapport à nous, hein, donc ça, ouais, tout le monde ça. Le sait. Ils mangent beaucoup plus tard, ce qui fait que tout est en décalage par rapport à notre façon de vivre à nous, Français. Donc déjà, il a fallu s'habituer à manger vers 15h, le midi, pareil pour le soir. Mais ce qui m'a beaucoup, ce qui a demandé vraiment un temps d'adaptation important, ça a été pour les soirées, pour sortir. Parce que nous, on commence en général à 19h, à 20h, l'apéro, voilà, c'est normal. Eux, c'est plus minuit. Donc c'est vrai que après manger, il faut trouver quelque chose à faire avant de sortir, sortir en soirée avec tes amis. Et donc il y a ce temps un peu de mou, de creux, où tu fais rien. Et à minuit, donc tu sors, tu vas dans un appart avec tes amis, tu fais... ce qu'on appelle un before, quoi. Et à 2h, après, on va dans des bars, bars dansants, et on va en boîte qu'à 4-5h, quoi. C'est vraiment l'heure normale. Donc, du coup, on se couche beaucoup plus tard, et on se lève plus tard, et puis voilà, c'est un cercle vicieux.
Le rythme est donné, ouais. Et toi, Chypre, Claire, du coup?
Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la culture de la voiture. En fait, les Chypriotes, ils prennent la voiture pour tout et pour rien, alors que pourtant, c'est une petite île. Donc, honnêtement, s'ils étaient plus gros, à mon avis, niveau écologie, ce serait vraiment infect. Et donc, il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trottoir, il n'y a pas vraiment de passage protégé. Et même dans le code de la route, en fait, si tu te fais renverser, tu es à 50% responsable. Donc, du coup, et on dirait que c'est un goal, en fait, de te renverser, parce que quand tu traverses, ils accélèrent. Donc, du coup, c'était un peu perturbant, mais on s'habitue. Mais ça m'a un peu laissé des séquelles quand même. Maintenant, même en France, quand je traverse, je suis un peu...
Tu peux pas, ouais. Bon, et maintenant, on va faire un petit retour personnel sur l'après-mobilité, du coup, quand vous êtes revenu en France. Et j'aime beaucoup cette citation de Marc Tiercelin qui dit « Voyager, c'est grandir, la grande aventure, celle qui laisse des traces dans l'âme ». Du coup, après votre retour, qu'est-ce que ça a laissé comme trace, cette expérience, dans votre âme? Puis, Shannon?
Dans mon âme. Écoute, mon âme s'est trouvée très meurtrie au retour. Non, honnêtement, sans blague à part, ça a été très, très difficile pendant très longtemps. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fini ma mobilité, j'étais en mai et j'avais un stage en France 2 jours après la fin de mes examens aux États-Unis. Donc, de base, je devais rester, voyager avec mes potes. Et quand j'ai eu la réponse de mon stage, j'ai pas trop eu le choix, j'ai dû rentrer en catastrophe en France. Et donc j'ai été plongée direct 35 heures tout l'été dans mon stage et j'étais complètement déprimée et je m'en suis pas remise avant facilement octobre quoi. Et c'est pour ça que j'ai rejoint ESN d'ailleurs, pour retrouver un peu ce sentiment d'appartenance et de pouvoir parler à des gens qui comprennent, parce que mine de rien, quand t'essayes d'expliquer à tes potes quand t'es parti pendant un an et que eux sont restés là, que leur vie a continué, toi ta vie elle a continué mais elle a évolué aussi dans un autre sens, t'as découvert des choses que tu faisais pas d'ordinaire, tu t'es découvert aussi, tu fais des choses que tu pensais pas faire avant, et essayer d'expliquer ça à tes potes qui pensent que tu reviens et que t'es exactement la même personne qu'avant, mais c'est pas possible parce que toutes tes expériences t'ont fait grandir dans un sens et ton regard a un peu changé quoi, sur tes habitudes ou sur ce que tu pouvais faire quand t'étais chez toi, c'est très compliqué. Et puis au bout d'un moment, honnêtement, ils sont juste saoulés de dire, d'entendre « Ah, je me souviens quand j'ai fait ça avec Bidule, c'était trop bien, et puis ah, j'ai fait ci avec truc », et ils sont là genre « Ouais, mais je les connais pas, enfin je m'en fous en fait quoi ». Donc c'est très très compliqué, et c'est pour ça que ouais, rejoindre l'asso m'a fait beaucoup de bien, parce que t'as cette dichotomie en fait entre le monde que t'as connu, le monde que tu connais et le monde que tu connais pas encore, et t'essayes de tout réconcilier, et c'est super difficile quoi. Faut avoir un bon système de soutien, parce que je pense que toute seule j'aurais eu beaucoup de mal à relever la tête vraiment quoi.
Ouais, c'est une expérience qui marque beaucoup. Et toi Mathilde, du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a marqué à ce retour?
Alors, je partage beaucoup ce qu'a dit Shannon. Hein. Je suis vraiment totalement d'accord. Je pense que c'est tous quelque chose qu'on ressent en revenant après dans notre pays. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose là-bas qui était totalement différent. Comme a dit Shannon, on a pris un chemin peut-être un peu différent. Si on était resté sur place, on n'aurait pas évolué pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas connues. Et c'est vrai que revenir dans son pays, on sent que c'est comme si on avait pris 5 ans de maturité et qu'on retrouvait des gens, et on se rend compte que les points communs qu'on avait avant, ils sont plus là, qu'on a une autre façon de penser et ça devient plus difficile. Enfin, c'est comme une réintégration à un groupe, et parfois on sent vraiment ce décalage. Donc j'essaye moi de me concentrer sur tous les moments positifs que j'ai eu là-bas. Ça reste un très bon souvenir, mais il y a eu aussi cette phase assez négative, on va dire assez pessimiste, de cette incompréhension en fait qu'on ressent quand on parle à des gens qui sont jamais partis, qui sont toujours restés en France, qui arrivent pas en fait à comprendre ce qu'on peut ressentir. Donc c'est un côté un peu frustrant. Et s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais très bien là-bas. Je me sens très bien représentée en fait en Espagne. J'ai bien adopté le mode de vie espagnol et aujourd'hui j'ai qu'une envie en fait, c'est de repartir.
Ah oui.
c'est pour ça que j'ai fait une demande de mobilité, une deuxième demande de mobilité pour l'année prochaine.
Super.
Donc j'espère pouvoir repartir en Amérique latine cette fois.
Un peu plus loin, ouais. Ça serait bien, ouais. Et toi, Claire, du coup?
Pour moi, je pense que ça a été une prise de conscience identitaire aussi, quelque part, parce que Chypre, c'est quand même loin dans l'Europe. C'est un pays qui est nouveau, seulement depuis 2004. Et c'est vrai que finalement, c'est très différent du bloc européen continental qu'on connaît tout ici. Et je pense en fait que vraiment ça m'a fait réaliser que des pays très différents, aussi différents, pouvaient en fait collaborer ensemble pour mener un projet important. Donc je pense que ça a vraiment été une ouverture d'esprit. Et pour moi, c'était un peu comme Shannon, en fait, juste après cette mobilité, je partais pour un stage aussi, donc une expérience professionnalisante, à la différence que moi, c'était aussi à l'étranger, donc j'étais quand même un peu plus enjouée, oui, voilà, un peu plus enjouée par ce départ. Mais je pense que c'est bien que je l'ai fait dans ce sens-là, parce que si j'avais fait d'abord mon stage, je pense que j'aurais été peut-être un peu moins ouverte et un peu moins dans cet esprit de rencontre, parce qu'en plus, dans un stage, quand on connaît personne et qu'on arrive en plus dans une grande ville comme Berlin, c'est vrai que ça aurait pu être très compliqué de rencontrer des personnes. Et en fait, j'avais plus cette gêne et cette timidité que j'avais peut-être avant. Donc voilà.
Ouais, c'est vrai qu'on prend un petit peu confiance en soi. Ça apporte quand même quelque chose au niveau personnel de très fort. Et est-ce que vous aurez des petits conseils à apporter à des personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de partir? Shannon, est-ce que tu aurais une idée de...
Moi, mon conseil, il est super simple. c'est ne réfléchissez pas. En fait, si vous vous dites, putain, ça a l'air ouf, elle parle de choses vraiment intéressantes, ça a l'air trop bien de partir. Mais réfléchissez pas, allez-y en fait. Je comprends que ce soit terrifiant. Je suis fille unique et du coup, pour moi, devoir dire au revoir à mes parents, ça fait très ringard, hein, mais devoir dire au revoir à mes parents pendant une année entière sans pouvoir rentrer, parce que c'est quand même un autre continent, je suis pas Crésus, hein, donc c'était un peu compliqué. C'était terrifiant, et c'était aussi... je sais pas, tellement revigorant en fait comme expérience, ça m'a vraiment fait du bien. Et si la seule chose que je puisse dire à quelqu'un, c'est ouais, c'est vas-y quoi, t'as peur, mais c'est pas grave, t'as peur, tu vas la surmonter et tu vas découvrir des choses sur toi et sur les autres que tu pourras jamais découvrir en restant dans ton petit cocon tranquille chez toi avec ce que tu connais quoi. Donc va-t'en.
Un conseil. Ouais.
Et toi Mathilde du coup?
Je suis assez d'accord, je pense qu'il faut pas avoir peur de sauter le pas comme on dit, c'est normal d'avoir des appréhensions parce qu'on part loin de notre famille, de nos amis, mais ça peut vraiment apporter beaucoup de choses, donc il faut pas avoir peur de sauter le pas. Après je pense qu'il faut pas non plus se forcer parce qu'il y a certaines personnes, notamment des gens qui, je sais, qui ont besoin de leur famille, qui ont besoin de ce cocon-là. Et dès qu'ils partent et qu'ils perdent tout ça, ça devient compliqué. J'ai rencontré d'ailleurs 2-3 personnes sur place pendant mon échange qui justement n'étaient pas dans cette optique d'ouverture aux autres. Et du coup, bah, ils restaient tout le temps chez eux, ils ne voulaient pas participer aux soirées. Et tous les mois, il fallait qu'ils rentrent chez eux, voir leurs parents, parce que leur famille leur manquait. Et je pense que ces gens-là, ils n'ont pas su tirer le maximum de leur expérience. Donc c'est vrai que si tu es quelqu'un qui sent que tu as besoin de ton confort, ton cocon, ta famille, c'est peut-être pas encore temps. Je pense qu'il ne faut pas se forcer. Mais il ne faut pas avoir peur non plus. Il ne faut pas se mettre de barrières, notamment au niveau de la langue. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas très bien la langue qu'il faut se bloquer là-dessus. Au contraire, rencontrer des gens, ça fait vachement évoluer au niveau de la langue. Donc il ne faut pas avoir peur de ce côté-là.
Si je peux me permettre, oui, vas-y. Juste en retour sur ce que tu dis, c'est vrai que je suis totalement d'accord. Si on n'est pas à l'aise, non, c'est sûr, il ne faut pas se forcer, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'une mobilité, surtout dans le cadre d'un échange universitaire, c'est une chance assez incroyable. Mais par exemple, moi, mon université à Greensboro, c'est 2 places. Et s'ils envoient quelqu'un et qu'au bout d'un mois, cette personne rentre, ils ne peuvent pas renvoyer quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment avoir cette optique en vue. Et je pense que c'est une volonté aussi de vouloir rencontrer des gens. Je sais que la personne qui était partie avec moi était très timide, presque maladivement. Et j'ai dû la forcer plusieurs fois à sortir et à faire des choses, en fait, à rencontrer des gens. Et je pense que c'est vraiment une optique, en effet, d'essayer de garder une ouverture d'esprit, quoi, et de rencontrer des gens. Mais... c'est vrai que ouais, faut se poser les bonnes questions avant de partir, quoi. Je dis va-t'en, mais voilà, quoi.
Il faut être un minimum prêt, mais ouais. Ça fait toujours du bien. Et toi, du coup, Claire, un petit
conseil? Moi, je suis tout à fait d'accord avec les filles. Après, je pense que, par contre, si on part, il faut vivre l'expérience à fond. Par exemple, il y avait une autre fille de l'IEP qui est partie avec moi. On aurait très bien pu se mettre en colocation, mais l'une comme l'autre, d'ailleurs, on avait vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver une coloc internationale où on était, du coup, 4. Et mine de rien, déjà, ça m'a appris à vivre dans une grosse colocation et ça m'a beaucoup aidée pour la langue, pour tout finalement.
Ouais, c'est vrai que c'est très personnel, hein. C'est à nous de nous adapter et de donner tout ce qu'on peut pour profiter à fond de cette expérience, hein. Donc on s'évadait un petit peu au cours de l'émission de Chat & Mobilité à travers 3 destinations, l'Espagne, Chypre et les États-Unis, hein. Donc c'était l'occasion de découvrir cette expérience incroyable de faire une mobilité internationale. En espérant que ça vous ait donné envie de partir ou au contraire rappeler de bons souvenirs de cette expérience. Je tiens à vous remercier les filles, donc Shannon, Mathilde et Claire, pour votre témoignage, hein, sur cette expérience. Et merci à vous aussi, chers auditeurs, hein, pour votre écoute, en espérant que cette première émission de Chat & Mobilité vous a plu.
Ceci est le nez plus ultra de la combinaison de camouflage. C'est génial.